l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Feuilleton en 15 épisodes.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Une adaptation de Juliette Eman.
Deuxième épisode.
Où se poursuit le récit des mésaventures de notre chevalier et du plaisant inventaire que firent le curé et le barbier dans la bibliothèque de notre ingénieux gentilhomme. Don Quichotte sortit de l'auberge aux premières heures du jour, si content et si fier d'avoir enfin été promu chevalier, que sa joie éclatait par tous les pores de son armure. Mais il résolut de retourner chez lui pour se munir d'argent et de chemise, et aussi d'un écuyer. Il comptait prendre à son service un de ses voisins, un paysan pauvre qui avait des enfants, auquel la fonction d'écuyer dans la chevalerie errante irait comme un gant. Il reprit donc le chemin de son village. Mais à peine s'était-il mis en route qu'il crut entendre de faibles cris venant d'un bois qu'il y avait sur sa droite, comme si quelqu'un se plaignait.
« Je rends grâce au ciel qui me donne sans attendre l'occasion d'accomplir mon devoir de chevalier errant et de recueillir le fruit de mon généreux dessein. Ces plaintes viennent à n'en point douter d'une personne qui attend de moi aide et protection. »
Tournant bride, il dirigea Rocinante vers l'endroit d'où les cris lui semblaient venir. Il n'avait pas fait quelques pas dans le bosquet qu'il vit une jument attachée à un chêne et à un autre chêne, également attaché, un jeune garçon d'environ 15 ans, nu jusqu'à la ceinture. Un vigoureux paysan était en train de lui administrer une correction avec une ceinture de cuir.
Je ne ferai plus, monsieur, je vous le jure.
Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, je surveillerai bien votre troupeau.
Ben voyons.
Chevalier sans vergogne. De quel droit vous attaquez-vous à un malheureux sans défense?
Le paysan, à la vue de cet épouvantail en armes, qui brandissait une lance sous son nez et s'apprêtait à fondre sur lui,
monsieur le chevalier,
se crut mort.
Ce garçon-là que je punis, c'est un de mes valets de ferme que j'emploie à garder un troupeau de moutons non loin d'ici. Mais il est si distrait que chaque jour il m'en perd un. Alors quand je veux le châtier de sa négligence, il prétend que je le fais par avarice pour que j'aie point à lui payer ses gages. Oh, sur Dieu et mon âme, il ment.
Comment osez-vous, Faquin, me prendre à témoin d'un démenti? Payez ce garçon sans attendre et sans répliquer. Ou je jure, par le Dieu qui règne sur nos vies, que je vous anéantis sur l'heure. Allons, détachez-le.
Allez, viens par là, toi.
Dis-moi, petit, depuis quand n'as-tu pas été payé?
On me doit 9 mois. À 7 réaux chacun, monsieur.
Ce qui fait donc 63 réaux. Je vous conseille de débourser cette somme immédiatement si vous tenez à la vie.
Oh, foi de moribond, je vous jure que j'en dois pas autant. Et il vous faut déduire au moins 3 paires de souliers que j'ai données à ce garçon. Plus 1 réal pour 2 saignées qu'on lui a faites quand il était malade.
Je veux bien le croire. Mais les souliers et les saignées compteront pour les coups qu'il a reçus sans motif. Car s'il a abîmé le cuir de vos souliers, vous avez abîmé la peau de son corps. Et si le barbier lui a tiré du sang quand il était malade, vous lui en avez tiré quand il était en pleine santé.
L'ennui, monsieur le chevalier, c'est que j'ai point d'argent sur moi. Qu'André revienne à la maison, il lui paierait son dû jusqu'au dernier sou.
Moi, repartir avec lui, non, monsieur, jamais. Parce que dès que vous aurez tourné le dos, il m'écorchera vif comme un Saint-Barthélemy.
Il n'en fera rien. Il suffit que je le lui défende pour qu'il s'en abstienne. Et pourvu qu'il me le jure par l'ordre de chevalerie qu'il a reçu, je le laisse libre et répond du paiement.
Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur. Mon maître n'est pas chevalier et n'a jamais reçu aucun ordre de chevalerie. C'est le riche Juan Aldudo qui habite à Quintanar.
Qu'importe, il peut y avoir des Aldudo chevaliers.
Si tu me fais le plaisir de revenir avec moi, mon bon André, je jure par tous les ordres de chevalerie de te payer, comme je te l'ai dit, jusqu'au dernier sou et de bon cœur.
Je vous fais grâce du bon cœur. Payez-le en bon denier, c'est tout ce qu'on vous demande. Et prenez garde d'accomplir ce que vous avez juré. Sinon, par ce même serment, je jure que je reviendrai vous chercher pour vous châtier et que je saurai vous découvrir, fussiez-vous mieux caché qu'un lézard. Et afin que vous sachiez qui vous donne cet ordre, apprenez que je suis le valeureux Don Quichotte de la Manche, l'illustre réparateur de toutes les injustices. En route, mon bon Rossignol.
Approche, petit. Je vais te payer ce que je te dois.
Comme ce vengeur d'injustice m'en a donné l'ordre.
Et je ne demande pas mieux, moi. D'ailleurs, c'est dans votre intérêt d'obéir à ce bon chevalier, à qui Dieu prête 1000 ans de vie. Il est tellement juste, lui, et courageux, que par Saint-Roch, si vous ne me payez pas, il reviendra et fera ce qu'il a dit.
Mais moi non plus, je demande pas mieux. Et pour te prouver l'affection que j'ai à ton égard, je veux augmenter ma dette pour augmenter le paiement. Allez, où
non
au poteau
non, non.
Eh bien, vas-y. Allez, appelle-le donc, ton vengeur d'injustice. Hein? Je te parie qu'il ne te la vengera pas de celle-là. Oh, je sais pas ce qui me retient de tes corps, chérif. Allez, pour donc le retrouver, ton justicier.
Bon, mais... Je le retrouverai. Et vous me le paierez cher.
N'empêche que c'était le valet qui pleurait et le maître qui riait. Quant au valeureux Don Quichotte, devenu redresseur de tort, il retourna dans son village très satisfait de lui-même et ravi de ce qui venait d'arriver. Il lui semblait que cette aventure marquait de la façon la plus noble et la plus heureuse ses débuts dans la chevalerie errante.
Je peux te dire heureuse entre toutes les femmes qui vivent aujourd'hui sur la terre. Oh, Dulcinée Toboso, toi qui as pour esclave de ta volonté un chevalier aussi vaillant et illustre que Don Quichotte de la Manche. Il n'est chevalier que depuis hier, comme tout le monde le sait, et aujourd'hui, il a redressé le tort le plus grave qu'ait jamais commis la cruauté ou l'injustice. Il a arraché le fouet des mains d'un impitoyable ennemi qui battait sans motif un enfant.
Don Quichotte avait parcouru ainsi près d'une lieue lorsqu'il vit venir sur la route une troupe nombreuse. C'étaient des marchands tolédans qui allaient acheter de la soie à Murcie. Ils étaient 6, abrités sous leur parasol, accompagnés de 4 domestiques à cheval et de 3 valets d'écurie à pied.
Rendons grâce au ciel, mon bon Rossinante. Voici une nouvelle occasion de prouver ma bravoure et d'accomplir mon devoir de chevalier.
Il s'affirma sur ses étriers, saisit sa lance d'un bras ferme, embrassa son bouclier et, se campant avec noblesse et courage au milieu du chemin, attendit ces gens qu'il prenait pour des chevaliers errants.
Aucun de vous ne passera si chacun ne confesse qu'il n'y a d'âme plus belle en ce monde que l'impératrice de la Manche, l'incomparable Dulcinée du Toboso.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Mais c'est un fou! Regardez-le!
Répondons-lui pour voir.
Monsieur le chevalier, nous ne connaissons pas cette noble dame dont vous parlez. Montrez-la à nous d'abord, et si elle est aussi belle que vous le prétendez, nous reconnaîtrons de bon gré et sans aucune contrainte ce que vous nous demandez.
Si je vous la montrais, quel mérite auriez-vous à reconnaître une vérité aussi manifeste? L'important est de le croire sans la voir. En garde, racaille présomptueuse! Venez donc l'un après l'autre, comme l'exigent les règles de la chevalerie, ou tous ensemble, comme c'est la vile coutume parmi ceux de votre espèce. Je vous attends ici, fort de mon bon droit.
Monsieur le chevalier, je vous supplie, afin que nous ne chargions pas notre conscience en affirmant une chose que nous n'avons jamais vue ni entendue, de bien vouloir nous montrer un portrait de cette dame, même s'il n'est pas plus grand qu'un grain de blé. Nous saurons alors à quoi nous en tenir, et tout à fait rassurés, nous pourrons vous donner satisfaction. Nous sommes déjà si près de vous croire que, même si son portrait nous la représente louchant d'un œil et de l'autre distillant du vermillon et du soufre, nous dirons d'elle, pour vous complaire, tout le bien que vous voudrez.
Non, canaille infâme! Son œil ne distille point ce que vous dites, mais de l'ambre et du musc. Elle n'est pas louche et encore moins bossue, car elle se tient plus droite qu'un sapin de Guadarrama. Et vous me payerez sur l'heure l'énorme blasphème que vous avez proféré contre cette beauté sans pareille.
Se disant, il fondit lance baissée, sur celui qui avait pris la parole avec une telle fureur que si Rocinante n'avait par chance trébuché en pleine course, l'audacieux marchand aurait eu son compte. Un des valets d'écurie ne put souffrir plus longtemps les insolences du pauvre chevalier. Il s'approcha, lui prit sa lance, la brisa en plusieurs morceaux, et avec l'un d'eux lui administra une telle volée qu'en dépit de son armure, il le laissa moulu comme du blé sous la meule.
Laisse donc là ce fou. Arrête donc, malheureux. Tu vas le tuer à le rouer ainsi le coup.
Soyez maudits, vous autres malandrins, qui osez me traiter de la sorte.
Enfin, le valet se lassa. Et les marchands poursuivirent leur chemin. Après leur départ, Don Quichotte essaya une nouvelle fois de se mettre debout. Mais s'il n'avait pu le faire quand il était entier, comment l'aurait-il pu à présent qu'il était rompu et presque en morceaux ?
Cette mésaventure est bien digne d'un chevalier errant. Me voici incapable de me relever. Qu'importe, je serai donc comme Baudouin, blessé et abandonné dans un bois par le fils de Charlemagne. Où es-tu, dame de mon cœur, si peu sensible à mon malheur? Tu ignores ce coup fatal ou tu es fausse et déloyale?
Vint à passer un paysan de son village qui était allé porter du blé au moulin.
Qui êtes-vous, monsieur? Et de quoi souffrez-vous pour vous plaindre si tristement?
Oh, toi, noble Augier le Danois, mon oncle est seigneur par le sang.
Laissez-moi enlever votre visière. Et vous nettoyez un peu le visage. Mais, bon, oh. Eh bien, monsieur Quichana, qui vous a mis dans cet état?
Le brave paysan lui ôta, non sans mal, le plastron et la dossière de sa cuirasse pour voir s'il était blessé. Et ne trouva pas la moindre trace de sang. Le soulevant alors avec beaucoup de peine, il le hissa sur son âne. Il ramassa les armes et ce qui restait de la lance, lia le tout sur le dos de Rocinante et, tenant le cheval par la bride et l'âne par le licol, il reprit le chemin du village, attristé par les folies que débitait Don Quichotte.
Sachez, monsieur le gouverneur Don Rodrigue de Narvaez, que l'incomparable Dulcinée du Toboso a pris désormais la place de la belle Jarifa. C'est en son nom que moi, la Bancérage, j'ai accompli et que j'accomplirai les hauts faits de chevalerie les plus fameux qu'on ait jamais vus et qu'on ne verra jamais en ce monde.
Oh, mais pauvre de moi, je ne suis pas Don Rodrigue de Narvaez ni Augier Danois, mais tout simplement Pedro Alonso, votre voisin. Et vous, vous n'êtes ni Baudouin, ni Gabin Serrage, mais un honorable gentilhomme nommé Quichana.
Je sais qui je suis, et je sais que je peux être non seulement ce que j'ai nommé, mais encore les 12 pairs de France et les 9 hommes illustres. Car de tous les exploits qu'ils ont accomplis, ensemble ou séparément, aucun ne pourra jamais se comparer au mien.
Ces propos et d'autres du même genre les menèrent jusqu'au village où ils arrivèrent à la tombée du jour. Le paysan attendit toutefois pour y entrer qu'il fît nuit noire, car il ne voulait pas que l'on vît notre gentilhomme revenir en si piteux état. Quand le moment lui parut propice, il le conduisit jusque chez lui où tout le monde était en émoi. Il y avait là, aux côtés de sa gouvernante et de sa nièce, Don Pedro Pérez le curé et Maître Nicolas le barbier du village, deux fidèles amis de Don Quichotte.
Hélas, monsieur le curé, quel malheur. Voilà bien 3 jours qu'on n'a pas revu notre maître. Je suis sûr que ces maudits romans de chevalerie qu'il lit à longueur de temps lui ont fait perdre la raison. Que Satan et Barabbas emportent tous ces livres qui ont gâté la cervelle la mieux faite de toute la Manche.
Et moi, monsieur le curé, je peux vous affirmer que j'ai vu très souvent mon oncle lire ces horribles romans pendant 2 jours et 2 nuits d'affilée. Après quoi, il jetait le livre, empoignait son épée et pourfendait les murs. Une fois qu'il était bien fatigué, il disait qu'il avait tué 4 géants hauts comme des tours et que la sueur qui lui coulait de s'être ainsi démené était le sang des blessures qu'il avait reçues pendant la bataille. Mais tout est de ma faute. Si je vous avais informé des extravagances de mon oncle, vous auriez fait le nécessaire pour l'empêcher d'en arriver là. Et vous auriez brûlé tous ces livres maudits.
C'est aussi mon avis. Et je vous promets que la journée de demain ne se passera pas sans qu'on en fasse le procès public et qu'on les condamne au bûcher. Et pour qu'ils ne donnent plus à ceux qui les lisent envie de faire comme notre ami.
Bon. Et au grand amasserage pour l'appel prisonnier, nous allons Rodrigue de Narvaez, gouverneur d'Antequera.
Bon. Gouverneur d'Antequera.
Mon oncle.
Monsieur. Oh.
Mon ami.
Oh, pauvre ami.
Non. Arrêtez. Gravement blessé par la faute de mon cheval et... qu'on me porte dans mon lit.
Hélas, quel malheur. Le cœur me disait bien lequel pied clocher notre maître. Entrez, monsieur. Soyez le bienvenu.
Maudits soient tous les romans de chevalerie qui vous ont mis dans ce bel état.
Mais où sont donc les blessures dont vous parlez?
C'est que je suis tout simplement moulu car Rocinante, mon cheval, s'est abattu sous moi alors que je combattais contre 10 géants parmi les plus redoutables qui est sur presque toute la terre.
Tiens, tiens, voilà que les géants s'en mêlent à présent. Par la Sainte Croix. Je jure que j'aurai brûlé tous ces livres demain, avant qu'il fasse nuit.
Ils posèrent ensuite à Don Quichotte 1000 questions, auxquelles il ne donna qu'une seule et même réponse. Qu'on lui apporta à manger et qu'on le laissa dormir, car il en avait grand besoin. Ce que l'on fit. Le lendemain matin fut consacré,
Maître Nicolas,
à l'inventaire de la bibliothèque.
Veuillez me présenter les livres un par un, pour voir de quoi ils traitent, car il peut s'en trouver qu'ils ne méritent pas le supplice du feu.
Ah non! Aucun ne doit être épargné car ils ont tous fait du mal à mon oncle. Le mieux ce serait de les jeter par la fenêtre, d'en faire un tas et d'y mettre le feu. Ou plutôt d'allumer un bûcher dans la cour pour que la fumée ne nous incommode pas.
C'est hors de question, mademoiselle. Je veux au moins en lire les titres. Commençons, maître Nicolas.
Alors, Amadis de Gaulle.
Non, ce livre est un cas un peu étrange. D'après ce que j'ai entendu dire, c'est le premier roman de chevalerie qu'on ait imprimé en Espagne. Et tous ceux qui ont été écrits par la suite l'ont pris pour modèle. Il me paraît donc qu'en tant que fondateur d'une secte dangereuse, nous devons le condamner sans rémission au bûcher.
Ouais, je ne suis pas de votre avis, parce que j'ai aussi entendu dire que de tous les livres de chevalerie, c'est le meilleur. Il mérite donc d'être épargné.
C'est juste. Qu'on lui laisse pour l'instant la vie sauve. Passons au suivant.
Les prouesses d'Esplandian, fils légitime d'Amadis de Gaulle.
Il n'y a aucune raison pour que l'on tienne compte au fils des mérites du père. Prenez-le, madame la gouvernante, ouvrez cette fenêtre et jetez-le dehors. Il sera le premier à alimenter le bûcher que nous allons allumer.
Avec plaisir, monsieur le curé.
Continuons, maître Nicolas. Quel est donc le livre qui vient après?
C'est La Galatée, Miguel de Cervantes. On brûle?
Cervantes est un ami de longue date. Et je sais qu'il est plus versé dans le malheur que dans la versification. Son livre ne manque pas d'une certaine invention, mais il ne va pas jusqu'au bout de son propos. Il nous faut attendre la deuxième partie qu'il nous a annoncée. Nous verrons alors s'il s'est suffisamment corrigé pour mériter la miséricorde que nous lui refusons aujourd'hui. Bon, entre-temps, gardez-le chez vous, maître Nicolas, et sous clé.
Très bien. Alors... Fleurimor d'Hyrcanie.
Le sieur Fleurimor est donc de la partie. Eh bien, qu'il aille sur le champ rejoindre le bûcher. Ouais. C'est tout ce que mérite la dureté et la sécheresse de son style. Jetez-moi ça par la fenêtre, madame.
Beaucoup de romans de chevalerie subirent ainsi la peine du feu. Mais beaucoup aussi furent épargnés. Car suscitant l'intérêt les uns du curé, les autres du barbier.
Laissons là l'inventaire, maître Nicolas. Notre homme est réveillé.
Chevalier. Allons, recouchez-vous, mon ami. Vous n'êtes pas en état.
C'est
un grand déshonneur pour nous autres chevaliers errants que d'abandonner sans résistance la victoire du tournoi à des chevaliers de cour alors que nous avions remporté le trophée les trois jours précédents.
Oui, oui, du calme, mon ami. Si Dieu le veut, la chance tournera. Et ce que vous perdez aujourd'hui, vous le regagnerez demain. Occupez-vous plutôt de votre santé, car vous devez être, j'en suis certain, extrêmement fatigué. Et peut-être même gravement blessé.
Blessé, non, mais moulu et brisé, il n'y a aucun doute. Oh, ce bâtard de Roland m'a roué de coups avec le tronc d'un chêne. Et tout ça, par jalousie. Qu'on me donne à manger.
Ils s'empressèrent de lui obéir et de lui apporter à déjeuner. Après quoi, il resta profondément endormi, les laissant stupéfaits de son étrange folie. Pour lutter contre la maladie de leur ami, le curé et le barbier eurent l'idée de fermer et de faire murer la pièce où Don Quichotte gardait ses livres pour qu'il ne les trouvât pas quand il se lèverait. Espérant qu'en supprimant la cause, il supprimerait les faits et de dire qu'un enchanteur avait tout emporté, et le cabinet, et les livres. Ce qui fut exécuté en toute diligence. Deux jours plus tard, Don Quichotte put quitter la chambre.
Où est donc, madame, le cabinet dans lequel je range mes livres ?
Oh, de quoi parlez-vous, monsieur ? Il y a longtemps qu'il n'y a plus ni cabinet ni livre dans cette maison.
C'est un enchanteur, mon oncle, qui est arrivé à dos de serpent sur un nuage la nuit qui a suivi votre départ. Mmh. Il est entré dans le cabinet. Et je ne sais pas ce qu'il y a fait, mais au bout d'un moment, nous l'avons vu s'envoler par le toit et la maison était toute pleine de fumée. Quand nous avons voulu voir ce qu'il avait fait, nous n'avons plus trouvé ni cabinet ni livre.
Il a dit qu'il s'appelait l'enchanteur Mignaton.
N'était-ce pas plutôt Freston ?
Oh, je ne sais pas s'il s'appelait Freston ou Friton. Tout ce que je sais, c'est que ça se terminait en ton.
Cet enchanteur est en effet un de mes pires ennemis. Il m'en veut parce qu'il sait qu'un jour viendra où j'aurai à me battre en combat singulier contre un chevalier qu'il protège et que je le vaincrai sans qu'il puisse l'empêcher. Voilà pourquoi il cherche à me nuire par tous les moyens. Et moi, je l'informe qu'il aura beau faire, il ne pourra contrecarrer ni éviter ce que le ciel ordonne.
Qui dit le contraire ? Mais vous, mon oncle, pourquoi vous mêlez de toutes ces querelles ? Vous feriez mieux de rester tranquillement dans votre maison au lieu de partir sur les routes en ne rêvant que plaies et bosses. N'oubliez pas que tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse.
Ah, oh, ma chère nièce, comme tu es loin du compte. Avant qu'on réussisse à me casser, j'aurais brisé et réduit en pièces tous ceux qui s'imaginent pouvoir toucher la pointe d'un de mes cheveux. Oh.
À suivre. L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche.
Un feuilleton adapté par Juliette Eman.
D'après le roman de Miguel de Cervantes.
Traduit par Aline Schulman.
Et publié aux éditions du Seuil.
Conseillère littéraire, Catel Guillot.
Deuxième épisode.
Avec Daniel Kenningsberg,
Bernard Ménez,
Luc-Antoine Diquero,
Jean-Pierre Becker,
Martine Chambacher,
Camille Figuereo,
Jean-Michel Mollet,
Alexis Rangard,
Yvan Cory,
David Mandino,
Michel Melki,
Dominique Bettenfeld,
Laurent Claret
et Jean Riffel. Musique originale, Sébastien Schuller.
Bruitage, Elodie Fiat.
Prise de son, montage, mixage,
Benjamin Vignal,
Mathieu Leroux.
Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet.
Réalisation, Cédric Ossire.